Yeah.
Ireland.
Ireland, uh-huh.
Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui parle de la vie des Européens avec aujourd'hui des cobayes connectés dans une crèche suédoise, l'avionneur ukrainien Antonov en perte d'altitude, la bibliothèque anarchiste de Vienne, le groupe portugais Orquestrada, mais tout de suite une nouvelle émission qui fait débat en Suède.
Vad händer när man avsäger sig sin frihet och sina rättigheter?
Ser ni vad är obehagligt alltså?
Och tvingas leva tillsammans i total isolering.
Vivre sous une dictature volontairement, c'est ce qu'ont choisi de faire 8 jeunes Suédois, filles et garçons, pour les besoins d'une émission de télé-réalité diffusée sur la télévision publique suédoise. Benoît Derrier.
Un hôpital désaffecté aux fenêtres obstruées, c'est l'environnement austère dans lequel 8 jeunes Suédois vont passer 8 jours et 8 nuits. Ils y ont été conduits les yeux bandés, leurs téléphones et ordinateurs ont été confisqués et ils vont devoir obéir aux ordres lancés par une voix, la voix du dictateur. Une seule consigne, obéir. Exemple, trier des trombones par couleur pendant 5 heures. Les instructions se font de plus en plus sournoises et absurdes et les candidats sont déshumanisés au fil des épisodes. Leurs noms deviennent des matricules, leurs vêtements sont remplacés par des uniformes. Ils sont bien sûr encouragés à dénoncer leurs petits camarades qui ne respecteraient pas les règles. Le gagnant est celui qui tiendra jusqu'à la fin pour remporter l'équivalent de 10 000 euros. Les perdants, quant à eux, ne sont ni torturés ni exécutés. Ils doivent simplement quitter les lieux. Mais une dictature que l'on peut quitter à tout instant est-elle vraiment une dictature ? Car l'émission est finalement plus ennuyeuse que véritablement transgressive. Diffusée depuis fin octobre sur la chaîne éducative de la télévision publique suédoise, elle se veut avant tout pédagogique, dans un pays qui n'a pas connu de guerre sur son territoire depuis 200 ans. Pour mettre les choses en perspective, les épisodes sont entrecoupés d'images d'archives de vraies dictatures. L'Italie de Mussolini, la Libye de Kadhafi ou l'actuelle Corée du Nord. Et comme dans tout programme de télé-réalité, les candidats ont été soigneusement choisis pour leur sale caractère, leur faiblesse psychologique ou leurs opinions politiques, de quoi assurer un minimum de spectacle. La seule véritable dictature de l'affaire est peut-être finalement celle de l'audimat.
C'est une autre dictature dont se plaignent parfois les parents, celle des écrans, tablettes, smartphones, consoles, qui captivent tant les enfants. Alors serait-ce par ignorance des vertus éducatives de ces outils ? En Finlande, l'université d'Helsinki vient de lancer une expérience dont les cobayes sont de très jeunes enfants. Le Playful Learning Center, en français le centre d'apprentissage ludique, accueille les bambins pour une session d'une heure. Ces derniers jouent et expérimentent des outils numériques sous l'œil aguerri d'étudiants et de professeurs en pédagogie. Le but, créer les outils éducatifs de demain, Pauline Curté.
Le décor est chaleureux, accueillant. Les murs sont rouges, verts, jaunes, des couleurs vives. Et les caisses sont remplies de jouets. Bref, cette crèche expérimentale, située en plein cœur d'Helsinki, est un vrai paradis pour jeunes pousses. Résultat, lorsqu'ils s'amusent, les enfants ne se rendent pas compte qu'ils sont filmés par des caméras discrètes et que plusieurs pédagogues, étudiants et professeurs se trouvent derrière une grande vitre à les observer. Ces enfants viennent de différentes crèches de la région d'Helsinki. Bien sûr, leurs parents ont accepté qu'ils participent à cette expérience, qui mêle jouets traditionnels et tablettes ou robots électroniques. Mathias Heikkinen est étudiant en pédagogie. Il est aux côtés des enfants pour toutes les sessions et déborde d'idées pour profiter pleinement de l'expérience.
Ici, c'est un peu comme la maison de Big Brother. Tout est filmé, mais c'est important. On peut ensuite regarder la vidéo pour voir comment nous nous sommes débrouillés, comment les enfants se sont comportés, leurs réactions, leur expression faciale. J'aimerais, un jour, fixer une caméra portable sur la tête d'un enfant pour toute la session. Ça me donnerait un angle différent. Je pourrais voir où il est allé, ce qui a attiré son attention. Le problème, c'est qu'une telle caméra serait trop grosse. Elle influencerait le comportement du petit.
Les professeurs de l'université d'Helsinki et leurs étudiants planifient les sessions avec minutie. Le but est bien d'observer la place que prend la technologie dans le jeu et aussi de s'en servir pour que les enfants acquièrent des savoirs. Mathias Ekenen donne un exemple qui ne va pas sans rappeler le codage informatique.
Dans une session, on leur a appris à tourner à gauche, à droite, à aller tout droit. On leur a d'abord expliqué le concept des flèches. Qu'est-ce que la gauche, la droite? Ils ont ensuite joué à un jeu. Ils ont dû faire bouger un robot selon une séquence qu'on leur a donnée. Par exemple, tout droit, gauche, droite, gauche, gauche. Le robot a été l'outil d'apprentissage.
Si l'objectif premier est de tester l'impact des nouvelles technologies sur l'apprentissage des enfants, les pédagogues du centre n'entendent pas remplacer les jouets traditionnels par des outils électroniques. Mais d'après Heidi Sairanen, chargée de projet pour la crèche expérimentale, cette dernière pourrait aussi permettre aux enseignants de mieux utiliser les nouveaux outils dans leur classe.
Les enfants sont en contact avec la technologie à la maison, mais pas à la crèche ou à l'école. Alors je ne sais pas si les professeurs ont peur, s'ils ne savent pas s'en servir ou s'ils ne comprennent pas leur utilité. Mais ces outils vont faire partie de la vie de l'éducation de ces enfants. Nous voudrions donc faire comprendre aux enseignants que les jeux vidéo, les tablettes ne sont pas dangereux, qu'il faut juste bien savoir s'en servir.
Après un peu plus de 3 mois d'activité, le Playful Learning Center peut déjà tirer quelques enseignements. Par exemple, que les enfants ont encore du mal à considérer les gadgets électroniques comme de vrais jouets. Ces conclusions, les pédagogues du centre vont les présenter à des développeurs de jeux vidéo finlandais qui viennent régulièrement visiter la crèche expérimentale pour mieux comprendre ce dont les enfants ont besoin. Kristiina Kumpulainen, spécialiste de l'éducation des enfants en bas âge et initiatrice du projet, voit d'un bon œil cette coopération entre entreprises et milieux pédagogiques.
La Finlande a une excellente réputation à l'international pour ses écoles et compte aussi des entreprises spécialisées dans les jeux vidéo qui se débrouillent très bien. Combiner les deux peut nous permettre de créer de nouvelles solutions d'apprentissage. Le plus important est de ne pas voir les enfants comme des consommateurs passifs. Ils doivent coder, dessiner, créer des habits, des tapis de jeu. En fait, ce sont eux qui produisent leurs jeux.
Ce développement de jeux ludiques est donc en phase de devenir une activité lucrative pour les entreprises finlandaises. Rovio, le créateur d'Angry Birds, célèbre jeu pour smartphone, planifie d'ailleurs d'ouvrir des crèches sur le modèle de celle d'Helsinki, en Chine. L'empire du milieu semble en effet très intéressé par l'usage des nouvelles technologies dans l'éducation de ses enfants.
Les avions Antonov, vous les connaissez sans doute, caractérisés par leur nez qui s'ouvre par le haut. L'ancienne perle de l'industrie aéronautique soviétique, fondée en 1946, a produit des avions transporteurs parmi les meilleurs du monde. La compagnie avait survécu difficilement à la dislocation de l'URSS. Le récent conflit ukraino-russe pourrait lui être fatal. Coupée du marché russe, l'entreprise publique ukrainienne est pour ainsi dire clouée au sol. Sébastien Gobert s'est rendu au siège d'Antonov à Kiev.
Sur une banderole bien en vue dans un hangar géant, le slogan se veut plus que volontariste. AN-178, ce sera la victoire de notre labeur. Malgré les échos d'un ancien temps, c'est sur le prototype du tout nouveau-né de l'entreprise Antonov que s'affairent des dizaines d'ouvriers. Couvrant le vacarme des travaux, l'ingénieur et directeur de projet Viktor Kazurov ne cache pas sa fierté en présentant le nouvel avion.
C'est un nouveau type d'avion porteur qui doit prendre sa place parmi les meilleurs sur le marché. Sur ce nouveau modèle, l'AN-178, le plus important, c'est le nouveau module de transport. Mais en général, de nombreux éléments de cet avion proviennent des modèles précédents de la famille Antonov, pratiquement sans aucune modification. Vous savez que la firme Antonov est l'un des leaders mondiaux dans la conception et la construction de transporteurs aériens de marchandises. Tout le monde connaît la N-12, la N-22, la N-24 Ruslan, la N-225 Mriya. Ce sont des avions homologués qui peuvent voler dans le monde entier.
Mais pour l'instant, Antonov ne va construire qu'un seul modèle d'appareil AN-178. Manque d'argent, manque de temps, mais surtout manque de clients. Héritage de l'époque soviétique, la Russie était partenaire dans la production et un débouché essentiel pour Antonov. Depuis quelques mois, le constructeur aéronautique, entreprise d'État ukrainienne, est donc devenu une victime collatérale de la guerre non déclarée que se livrent deux frères ennemis, comme l'explique un des avocats d'Antonov, Roman Marchenko.
Les types d'avions les plus intéressants à l'heure actuelle sont l'AN-140 et l'AN-148. Ces deux appareils sont produits en Russie et en Ukraine, et la Russie a suffisamment d'argent pour assurer seule la production. Avant l'occupation de la Crimée, le projet était donc plutôt intéressant, mais bien évidemment, presque toute la coopération est suspendue. En termes de production, le partenariat ne se faisait pas seulement avec le secteur privé russe, mais aussi avec l'État fédéral. Donc, l'entreprise d'État ukrainienne Antonov n'avait d'autre choix que de cesser sa coopération avec Moscou. Alors que, pour des raisons assez évidentes, la Russie était le marché le plus important pour Antonov.
Dans les bureaux d'Antonov, le directeur général Dmytro Kiva tempère ce constat.
Ça fait longtemps que l'on s'est diversifié avec des partenaires étrangers de Pologne, de Chine et d'Inde. Si nous prenons les chiffres de ces deux dernières années, le partenariat avec la Fédération de Russie ne représentait que 7 à 9% de notre chiffre d'affaires. Donc pour nous, ce n'est pas critique. C'est une difficulté, c'est sûr, mais ça ne va pas nous tuer.
Le directeur général s'affiche comme un optimiste. Il admet que la plupart des revenus de l'entreprise viennent de la location de sa flotte à des compagnies aériennes et non des constructions prestigieuses d'autrefois. Mais il veut croire que ces avions sont compétitifs et intéressants pour de nombreux clients. Et sous la forme d'une plaisanterie déguisée, il estime que la rupture avec la Russie peut avoir des effets positifs.
Il y a 10 ans, nous étions en plein développement de l'avion AN-70. Nous avons reçu une délégation de clients français ici même et ils nous ont dit qu'ils étaient prêts à travailler avec nous à condition que la Russie n'ait aucune part dans le contrat. À l'époque, c'était impossible. Aujourd'hui, nous pouvons travailler avec l'Ouest. Donc en fait, la situation s'est améliorée.
Mais ses clients français ou occidentaux ne sont pas à Kiev ces temps-ci. Les avions Antonov souffrent de la réputation de leur entreprise, vieillotte, bureaucratique, peu compétitive face aux concurrents Airbus, Boeing ou même chinois, et surtout pauvre. Comme le constate l'avocat Roman Marchenko, l'entreprise ne bénéficie d'aucune aide d'un État ukrainien en quasi-faillite et s'en trouve paralysée.
Antonov ne peut plus produire les avions que la compagnie veut vendre. Elle a besoin d'une énorme injection d'argent et pour l'instant, on ne voit pas d'où ça pourrait venir. Ce que je pense, comme quasiment tous les dirigeants d'Antonov, c'est que l'entreprise doit être privatisée à un moment donné. D'année en année, la valeur de privatisation décroît car la flotte d'avions vieillit et les dépenses restent considérable. On parle d'environ 15 000 employés. Ça représente énormément d'argent, alors qu'ils sont payés pour rien.
Et pourtant, comme le défend Roman Marchenko, la véritable richesse d'Antonov, c'est son formidable capital humain, son savoir-faire technique et intellectuel. Dans le cas d'une privatisation et d'une restructuration musclée, cette richesse pourrait être réduite en morceaux et devenir, de manière irrémédiable, une nouvelle victime de l'affrontement entre la Russie et l'Ukraine.
Un espace alternatif plutôt inattendu à Vienne, en Autriche, une bibliothèque anarchiste, où s'est rendu Nathanaël Vitran.
Oubliez les ors de la Bibliothèque nationale autrichienne, ici pas de haut plafond ou d'étagères finement sculptées. Nous sommes dans la cave d'un immeuble résidentiel où la communauté anarchiste a peu à peu amassé un trésor de plus de 2500 livres, auxquels il faut ajouter des dizaines de revues et journaux venus d'Italie, d'Espagne, de France, de Belgique ou des Amériques. Pour Elisabeth et son collègue qui, avec d'autres, gère bénévolement cet espace atypique, l'objectif est très simple.
Propaganda.
La propagande.
Notre objectif, c'est de redonner de la crédibilité aux idées anarchistes et de les réintroduire dans le discours ambiant.
C'est aussi un lieu de rencontre où les anarchistes peuvent retrouver d'autres anarchistes, où on peut venir en disant « Pouh, je voudrais en savoir plus sur la guerre civile espagnole ou l'anarcho-féminisme ». C'est aussi un lieu où on peut échanger autour d'un café ou d'une bière.
La bibliothèque est aussi un lieu de passage passage, les étrangers qui en ont entendu parler viennent régulièrement y faire un tour. Mais une bibliothèque anarchiste, contrairement aux clichés, cela ne veut pas dire qu'on y fait n'importe quoi et que rien n'y est rangé.
L'anarchie ne dit pas qu'il ne doit pas y avoir d'ordre par principe, mais s'intéresse à la manière dont les règles sont mises en place. Nous n'avons pas de règles du type « il faut faire ça, comme ça », mais on regarde ce qui se fait dans d'autres bibliothèques et on applique uniquement les règles qui nous conviennent.
Certains riverains goûtent assez mal la présence, pourtant bien inoffensive, des anarchistes dans l'immeuble. Eux se sentent un peu à l'étroit dans leur cave aménagée. On peut donc s'attendre à ce que la petite communauté aille prochainement lire ailleurs.
Musique.
Bonjour Vincent Teval, ou plutôt Bandilla.
Bonjour Laurent.
Alors aujourd'hui, c'est le grand retour d'Orchestrada dans Accent d'Europe.
Plus de 4 ans après un premier album qui a fait un joli bout de chemin au Portugal, mais aussi sur l'ensemble du vieux continent, en passant par Accent d'Europe, le groupe Orchestrada revient aujourd'hui avec une nouvelle collection de chansons intitulée Atlantic Beat Made in Portugal. C'est une musique à la fois familière et originale que propose João Lima, Pablo et Marta Miranda, entourés par de nombreux musiciens de tous horizons, familière parce qu'on y reconnaît des influences et des instruments profondément liés aux traditions musicales portugaises, et originale par sa façon d'agencer l'ensemble pour en faire une musique de danse acoustique, sensible et discrètement euphorisante.
Finalmente que te encontrei, não me deixaste gostar de ti. Eu que por ti andei escondido, ausente de outro sentido, que o sonho foi sempre teu. Por ti eu quis ser tudo e nada. E fiquei, parei na madrugada. Eu que te criei com todo o meu pensamento. Finalmente que te encontrei, não me deixaste gostar de ti.
Orchestrada dans Accent d'Europe, une émission réalisée et mise en onde par Françoise Grelot, à qui l'on doit aujourd'hui, il faut le préciser, le son de l'Antonov 1, ce n'est pas rien. On se retrouve lundi sur les ondes et tous les jours de la semaine sur les pages RFI, Facebook et Twitter d'Accent.
Ser tudo e nada, o sim que te agrada, por ti fiquei, parei na madrugada, e um dia que te encontrei, finalmente que te encontrei.